Bonjour Monseigneur Brouvé.
Bonjour Anne-Rose.
Le pape François vous a nommé évêque de Nîmes, Uzès et Alès ce mardi 10 août. Vous quitterez le diocèse de Tarbes et Lourdes en septembre, dans un peu plus d'un mois, après 9 années passées ici en Bigorre. Comment avez-vous reçu cette nomination, Monseigneur Brouvé ?
Eh bien, je l'ai reçu dans la foi, comme tout ce qu'on fait quand on a une nouvelle nomination, en particulier par le pape. C'est-à-dire que quand je dis dans la foi, ça veut dire qu'on y voit aussi le Seigneur qui nous guide, le Seigneur qui nous conduit à travers différentes étapes. Et je me disais, c'est l'année de Saint-Joseph. Et Saint-Joseph, justement, il avance dans la foi. Et je me dis, c'est beau aussi d'être accompagné par Saint-Joseph pour cette nouvelle mission.
Voilà, dans la confiance.
Dans la confiance, oui.
Vous avez passé donc 9 années ici dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Qu'est-ce que vous retenez de votre épiscopat ici dans notre diocèse? Peut-être on peut revenir sur les temps forts qui ont marqué ces 9 années.
Oui, alors je crois qu'il y a eu beaucoup de choses. D'abord, tout ce qu'on a pu vivre avec nos diocésains, avec le diocèse. Je pense à l'année de la mission, je pense à l'année de la miséricorde. Je pense à tout ce qui a été vécu avec les jeunes. Je pense à la réorganisation un peu structurelle du diocèse avec les doyennés pour que les prêtres aient non pas une vie commune, mais une vie fraternelle autour du doyen. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées. On a eu des temps forts comme les 24 heures pour Dieu. On a eu des temps forts comme la Saint-Valentin qu'on a vécu à Lourdes pour les couples. Il y a eu de très beaux moments. Et puis, il y a la vie quotidienne qui est très belle aussi. Vous voyez, la vie d'un diocèse pour un évêque, ce ne sont pas que des temps forts, mais c'est aussi des temps passés dans les paroisses. Par exemple, il y a eu des visites pastorales, qui sont des visites pas seulement dans les paroisses, dans les communautés paroissiales, mais pour connaître un peu la vie des villes et des villages. J'ai visité des usines, j'ai visité des fermes.
Ça, c'est essentiel, selon vous, pour un évêque, pour palper un petit peu la vie locale et s'imprégner de la culture.
Ah oui, évidemment, évidemment, parce que je crois qu'on ne connaît pas une communauté paroissiale si on ne connaît pas son terrain de vie, si je puis dire. Les gens, ils ne sont pas toute la journée dans l'église en train de prier. Ils travaillent, ils ont des familles, ils ont des exploitations. Il y en a qui sont dans les maisons de retraite, tout ça. Les prêtres m'ont bien aidé vraiment pour m'accueillir et puis me donner, une ouverture sur ce monde professionnel, le monde du tourisme aussi. J'ai beaucoup apprécié aussi les messes dans les montagnes, les pèlerinages locaux le 15 août. Il y a eu beaucoup de très beaux moments qui n'ont pas été forcément médiatisés. Sauf quand même dans le journal, parce que souvent le journal est bien présent pour relater les événements locaux. Et puis, et donc ça fait partie de la vie quotidienne d'un évêque, c'est-à-dire l'accueil par les paroissiens, l'accueil par les prêtres et les diacres, l'accueil par les communautés religieuses, le temps passé ensemble, les repas, les apéritifs. On mange très bien en Bigorre, et ça je le souligne. C'est vraiment ce avec quoi je pars, et puis avec le paysage des montagnes, quoi. On ne peut pas oublier les Pyrénées.
Qu'est-ce que vous avez appris, au fond, ici, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes? Avec quoi vous repartez en vous disant ça me servira dans ma mission d'évêque dans le diocèse de Nîmes? Je repars avec ça et je vais le garder en mémoire pour assurer aussi ma mission dans le diocèse de Nîmes.
Je dirais d'abord, ce qui est très, très impressionnant, c'est la foi des fidèles. C'est-à-dire qu'au fond... beaucoup de gens ont une foi très profonde et ensuite la mettre en œuvre dans leur vie. Et je crois que ça, il faut compter là-dessus, parce qu'on peut avoir une vision très, très pessimiste de la culture actuelle, de la société, la déchristianisation, la sécularisation. Mais je trouve quand même que dans les paroisses, de la part de gens qui ne font pas forcément beaucoup de bruit ou qui ne sont pas forcément très engagés, il y a une foi profonde. Et cette foi profonde... on la sent lorsque l'on est dans les villages, dans les quartiers, dans les paroisses. Et ça, il faut compter avec, hein, c'est-à-dire une forme d'engagement à la suite du Christ. Je vois aussi l'importance de l'évangélisation,
oui, hein,
et combien, au fond, nous avons à retrouver cette dynamique évangélisatrice. C'est vrai que ça, c'est vraiment... je me rends compte qu'elle n'est pas évidente. Hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien, disons... faire ce que doit faire une paroisse et qu'elle fait depuis longtemps, accueillir les enfants, sacramentaliser, c'est-à-dire célébrer les sacrements, mais pour aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou ceux qui ne viennent plus dans nos communautés, ça, on est plus, c'est plus difficile, je vois.
Oui, c'est ce que vous avez voulu lancer lors de l'année de la mission en 2014-2015, oui, et aussi maintenant aujourd'hui avec le pôle mission autour de Sabine, oui, Bergère et son équipe.
Avec les missions paroissiales. Et ça demande, disons, de l'intériorisation, oui, hein, pour se mettre en route. Et donc, voilà, ça, je repars avec ça. Je vois qu'il y a un dynamisme missionnaire. La question, c'est plutôt... C'est-à-dire que tout le monde a envie d'évangéliser. Ça, c'est indéniable. Personne ne dit que ça ne sert à rien. Mm-hmm. Mais on ne sait pas très bien comment faire. Un petit peu comme si on avait perdu cette sorte de fraîcheur qu'il y avait au premier temps de l'Église ou qu'il y a eu en prêchant des missions ici ou là, que ce soit en France ou ailleurs. Mais cette espèce de savoir-faire, hein, comment est-ce qu'on entre en contact et qu'on peut annoncer le Christ.
Vous comptez beaucoup sur les jeunes pour nous aider.
Ça aussi, c'est ce avec quoi je repars, c'est que quand on s'occupe des jeunes, bah, ils répondent présents.
Ils nous le rendent bien.
Et ici, on a beaucoup d'animateurs de jeunes, de gens qui sont en responsabilité auprès des jeunes et puis qui savent faire. Et du coup, là, il y a la fraîcheur des jeunes. Je rappelle que pendant le camp VTT, il y avait 230 jeunes, encadrés, évidemment, mais ils étaient là, présents. Ils aiment bien aussi... c'est important qu'on donne des responsabilités aux jeunes. Et donc, c'était aussi le sens de la démarche synodale que nous avons faite cette année pour donner la parole aux jeunes et leur dire « Oui, vous êtes l'Église avec nous et on compte sur vous. Vous n'êtes pas que passif, vous êtes actif et vous avez la parole. »
Une démarche synodale qui est encore en cours,
qui
ne s'arrête pas.
Qui est en cours, oui. Et puis, je retiens aussi l'importance de la pastorale du tourisme, c'est-à-dire que beaucoup de gens viennent se reposer dans nos belles Pyrénées,
oui,
et comment est-ce que, c'est le moment aussi où ils se posent des questions, c'est le moment où ils visitent des églises, c'est le moment où ils ont du temps aussi pour penser au Seigneur. C'est le moment aussi où ils quittent un peu le train-train du quotidien et que du coup il y a une sorte de disponibilité intérieure aussi, hein, pour réfléchir à leur vie, pour réfléchir à eux-mêmes, pour réfléchir à Dieu. Et on a dans nos belles églises des Hautes-Pyrénées de quoi faire réfléchir justement, hein, à travers la beauté. Et donc là aussi je retiens, parce que Nîmes c'est aussi un département où il y a beaucoup
touristique,
de...
Touristique,
oui. Oui, très touristique. Ah. Et puis, c'est magnifique, le paysage est magnifique. Voilà. Et donc, là aussi, il y a une histoire. Nîmes était un diocèse, figurez-vous, avant le diocèse de Tarbes. Alors, c'est déjà dès le IVe siècle, parce que c'est une ville romaine, Nîmes. Voilà, donc, il y a une sorte d'histoire, hein, de l'évangélisation, dans laquelle on entre. Hein,
vous avez eu le temps déjà, là, depuis que vous savez que vous allez être nommé, que vous êtes nommé à Nîmes, vous avez eu le temps de chercher un peu, de fouiller un peu dans l'histoire, d'essayer de vous imprégner déjà un petit peu, ou faut peut-être attendre d'être sur place pour s'en imprégner de cette histoire.
Oui, alors j'ai fait la première chose qu'on doit faire, c'est d'acheter le guide vert. Et puis de lire un peu l'histoire. Bon, et puis ensuite, je vais me plonger dedans. Je suis sûr qu'il y aura des livres et puis surtout des personnes qui vont raconter l'histoire.
Voilà, qu'est-ce que vous connaissez déjà? Alors, il y a une communauté protestante importante dans le diocèse de Nîmes.
Oui, il y a une communauté catholique, Anne Rose d'abord. Mais c'est sûr qu'il y a aussi une histoire. Il y a une histoire protestante, une histoire avec les protestants, hein, qui ont vécu là, qui sont développés là. Et donc, il y a certainement, vous voyez, une dimension œcuménique, hein,
ouais,
qui est là. Moi, je me dis souvent, l'évangélisation, c'est nous, les catholiques, mais c'est aussi avec tous les chrétiens, hein, qui sont présents. Et donc, comment est-ce qu'on peut, chacun à notre manière, annoncer l'évangile du Christ.
De la même manière qu'un prêtre doit se préparer à changer de paroisse, c'est la même chose pour un évêque, il doit se préparer à cette forme d'itinérance quelque part. Est-ce que pour vous, c'est une difficulté, ça?
Quand on est évêque, on sait qu'on est à la disposition de, oui, l'Église. Donc, on sait très bien, on voit que les évêques changent, qu'il y a des évêchés qui... Voilà, des évêques qui partent à la retraite, d'autres qui sont nommés ailleurs. Donc, si vous voulez, oui, on est prêt. Hein, on est prêt dans notre cœur. C'est une disponibilité mariale à la mission. Et puis, le jour de notre ordination, on promet obéissance et fidélité au Saint-Père, au Pape. Hein, donc, on sait qu'il peut nous nommer ailleurs. Ça fait partie de ce qu'on a dans le cœur et d'une sorte de pauvreté intérieure aussi, parce qu'on ne peut pas s'attacher aussi à un diocèse. C'est-à-dire on s'y attache et on donne tout ce qu'on a, mais on sait que du jour au lendemain, on peut partir. Et ça fait partie aussi de notre... Et d'une sorte de liberté aussi qu'on a.
Jusqu'à votre installation dans le diocèse de Nîmes, Uzès et Alès, le 18 septembre prochain, vous êtes administrateur du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Bigourdans, chrétiens, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes?
C'est-à-dire que le jour où vous êtes nommé ailleurs, bon, voilà votre mission. Ma mission, elle est à Nîmes. Bon. Mais en attendant, il faut bien qu'il y ait un évêque qui veille sur le troupeau, en attendant qu'il y a... Enfin, un évêque ou un administrateur, disons, qui veille sur le troupeau, en attendant qu'un évêque soit nommé. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, si vous voulez, qui veille au grain, sans prendre de grandes décisions. On ne va pas faire les grandes révolutions, mais simplement être là, présent. Donc, moi, je suis administrateur jusqu'à mon installation effective à Nîmes, le 18 septembre. Et ensuite, dans la semaine qui suit, à partir du 20 septembre, on a un conseil de prêtres qui s'appelle le conseil des consulteurs, parce qu'il est consulté pour des décisions importantes. Et là, le conseil des consulteurs doit élire un administrateur. Donc, un administrateur en attendant la nomination d'un nouvel évêque.
Et ça peut arriver dans un temps plus ou moins long, un mois, deux mois, six mois. On ne sait pas combien de mois ou de semaines vont s'écouler entre votre installation et l'arrivée d'un nouvel évêque.
Voilà, ça, on ne sait pas du tout. Ça peut être un mois, ça peut être six mois ou huit mois,
Monseigneur, dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de l'Assomption, grande fête mariale. La Bigorre est aussi une terre mariale. Alors, on ne peut pas ne pas évoquer le sens de cette fête avec vous. Ici, au sanctuaire de Lourdes, où vous avez aussi mené votre action, votre mission d'évêque. Qu'est-ce qu'elle représente, cette fête mariale, pour vous?
Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé, j'ai surtout parlé du diocèse, mais mon diocèse c'était aussi le sanctuaire de Lourdes dans lequel j'ai énormément de très beaux souvenirs parce que c'est vraiment l'Église universelle qui vient dans toute sa richesse, dans toute sa diversité ici. Et c'est vrai que le point de vue de l'évêque, le regard de l'évêque, c'est un regard qui est très, très intéressant là, pour Lourdes, surtout qu'à Lourdes, il y a eu... le défi de la reconstruction
après les inondations.
Moi, je trouve que le plus grand défi à Lourdes, c'est de faire vivre le Lourdes éternel. Ce que j'appelle le Lourdes éternel, c'est ce qui ne changera jamais à Lourdes. Il y aura toujours une grotte, il y aura toujours des processions, il y aura toujours des messes, des confessions, des bains aux piscines. Le geste de l'eau, ça ne changera pas, parce qu'on ne peut pas changer le message de Bernadette. Mais je trouve que le défi pastoral, c'est comment faire... habiter tout cela d'année en année sans s'épuiser dans des formes, vous voyez, une espèce de sans tomber dans une sorte de formalisme liturgique qui fait qu'au fond, un pèlerinage à Lourdes ressemble à celui de l'année dernière et celui de l'année d'avant et il n'y a rien qui change. Alors qu'en fait, c'est très vivant, le sanctuaire de Lourdes est très vivant. Alors comment faire vivre aussi toutes les activités pastorales qu'on propose? Être fidèle au message de Marie, venez en procession, de telle sorte que chacun retrouve, se mette en présence de Dieu, se laisse évangéliser, fasse la rencontre du Seigneur à travers Marie. Et donc, Alors pour le 15 août, ce qui est beau, c'est qu'on va parler du ciel. On va parler du ciel. Alors, dans nos vies quotidiennes, on parle souvent du ciel au moment de la mort d'un proche et dans les obsèques. Et donc, on parle du ciel aussi le jour de l'Ascension, bien sûr. Mais du ciel en disant, c'est normal que le Christ Jésus aille au ciel. C'est sa place, quoi. C'est là d'où il vient, c'est là où il va. Et là, le jour de l'Assomption, alors on parle de l'humanité qui va au ciel. C'est-à-dire en Marie, et Marie, c'est l'humanité, c'est la première humanité qui est accueillie au ciel dans la gloire du Père, et ça, c'est notre avenir. Et c'est beau, le 15 août, en plus, c'est au moment des vacances, en plein été, ouais. Donc c'est le moment où on a du temps pour y penser. C'est le moment où on va parler du ciel, on va penser au ciel, non pas dans la tristesse de la perte d'un proche, mais en pensant à notre avenir à chacun. Et ça, c'est très beau, et c'est vraiment ce qu'on fête le jour du 15 août.
Vous avez senti Notre-Dame de Lourdes vraiment vous porter dans ces 9 années dans le diocèse
Oh bah oui, oui, évidemment, parce que c'est avec Marie que on... enfin, il me semble que le ministère d'un prêtre, le ministère d'un évêque est forcément marial, quoi. Mais à Lourdes, c'est encore plus, quoi, parce que c'est elle qui accueille les pèlerins. On sent sa présence maternelle, mm-hmm. présence maternelle comme mère de l'Église qui accueille les pèlerins. Et puis alors, la grâce du Seigneur, elle passe à travers Marie, elle passe à travers les prêtres et les diacres. Mais Marie est là comme celle qui veille, hein, comme celle qui accueille, comme celle qui sourit, hein, à celui qui arrive. Et évidemment, ben, son sourire, je l'ai senti aussi porté sur moi.
On souhaite que Notre-Dame de Lourdes vous accompagne dans votre nouvelle mission, Monseigneur
Bourré.
Oui, alors
figurez-vous que dans la cathédrale de Nîmes, il y a une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Ça avait été un évêque, un de mes prédécesseurs, qui avait voulu une chapelle à Notre-Dame de Lourdes.
Vous ne serez pas perdu.
Vous
n'oublierez pas la Bigorre terre mariale.
Oh, ben ça, c'est sûr que non, parce que 9 ans dans un diocèse, ça marque évidemment. Et donc, je repars avec tous ces souvenirs, toutes ces grâces reçues, hein, tout ce que j'ai pu vivre. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier voilà, tous les fidèles, tous les prêtres, les diacres, tous les consacrés qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont accueilli comme évêque, loyalement, fidèlement. Voilà, me prenant tout simplement comme le pasteur qui leur a été donné par l'Église et par le Seigneur. Voilà, et je les associe vraiment à mon action de grâce et je leur demande de prier pour moi.
Merci beaucoup, Monseigneur Bouvet.
Merci, bonne fête de l'Assomption à chacun, à chacune.